J'espère que vous êtes tous confortablement installés et que personne ne se sent défaillir. Nous voulons demander à Dieu sa bénédiction sur ces quelques instants. Ô Dieu, toi que nous pouvons appeler en Jésus-Christ notre Père, nous voulons te bénir. Parce que nous sommes rassemblés sous ton regard comme une grande famille. Tu nous connais tous par nos noms. Tu sais tout de notre vie intérieure, de notre vie extérieure. Toutes choses sont nues et découvertes à tes yeux. Et c'est en nous connaissant d'une façon parfaite, c'est en ne te faisant aucune illusion sur ce que nous sommes que tu nous dis « Je vous aime ». Je vous ai tellement aimé. Et je vous ai donné ce que j'avais de meilleur, mon Fils, mon unique. Oh, que nous puissions être conscients de ce don ineffable. Et qu'en considérant celui que tu nous as donné, la gloire du ciel, nous puissions être des bienheureux, comme toi tu es l'être bienheureux, pour ta seule gloire. Éclaire-nous par la puissance de ton esprit. Captive nos pensées qui si souvent vagabondent, captive-les et rends-les obéissantes au Christ, pour notre bien suprême et pour ton honneur. Amen. Eh bien, mes amis, vous avez étudié ce matin ces deux chapitres dont vous avez pris connaissance hier soir. Nous l'avons fait ensemble. Et je veux bien le croire, plusieurs parmi vous avaient déjà lu cet épître aux Galates. Mais maintenant, nous allons reprendre ces textes verset par verset. Nous sommes donc dans cette journée du samedi 8 février 1986 au matin. Nous sommes penchés sur les deux premiers chapitres de cette lettre qui a pour auteur Paul, qui se nomme apôtre. Je pense que vous connaissez tous la signification du mot apôtre et que nul n'ignore parmi vous qui est Paul. Autrefois appelé Saul de Tarse, de son nom juif, puis Paul, quand il devient le missionnaire parmi les païens, il prend le nom romain de Paul. Saul de Tarse, c'est son nom juif. Paul, c'est ce nom qu'il a comme apôtre des païens. Et que veut dire apôtre? Eh bien, dans son sens restreint, un apôtre était un des hommes qui avait été choisi par Jésus et instruit par lui. Pour être apôtre, dans ce sens restreint du mot, il fallait avoir connu Jésus au début de son ministère, c'est-à-dire depuis son baptême qu'il reçut à l'âge de 30 ans environ au Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth. Et il fallait avoir suivi Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort, et non seulement jusqu'à sa mort, il fallait avoir été témoin de quoi? De sa résurrection. C'était là la condition pour être un apôtre. Et nous avons ces détails dans le chapitre premier des Actes, lorsqu'il s'agit de remplacer qui? Il y avait eu une brèche dans les 12 apôtres. L'un s'était pendu, c'était Judas. Alors, c'est là que l'apôtre Pierre nous montre qu'il y avait seulement deux hommes qui répondaient à ces conditions, qui avaient connu Jésus au début de son ministère et qui avaient été témoins de sa résurrection. C'était cela un apôtre, un homme donc choisi par le Christ qui avait été sur la terre et qui avait été enseigné par lui. C'est donc Matthias, d'après le chapitre premier des Actes, qui avait été nommé pour succéder à Judas Iscariote. Mais apôtre veut dire en même temps envoyé. C'était donc les hommes que Jésus avait envoyés, qu'il avait accrédités lui-même pour annoncer l'évangile au monde entier, puisqu'il leur avait dit dans le chapitre 28 de Matthieu, nous trouvons cette expression du Christ ressuscité, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toutes les nations ou à toute la création, comme on le lit aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Alors, de quel droit Paul s'appelait-il, lui, apôtre? Car, nous le savons par plusieurs passages, lui n'avait pas connu le Christ selon la chair. Il n'avait pas été disciple du Christ. Et il ne l'avait jamais rencontré sur la terre. Il était comme vous et moi, hein, nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas rencontré physiquement. Eh bien, Paul, ce Saul de Tarse, au contraire, il avait appris à connaître les disciples du Christ, les apôtres, et il s'en était fait le persécuteur. Il avait pensé que ces gens qui avaient suivi le Christ, ce Christ que lui n'avait pas connu, étaient des imposteurs. Et qu'il répandait des mensonges en disant partout que Jésus crucifié avait été ressuscité et qu'il était monté dans la gloire. Et comme il était un juif fanatique dans sa religion, il pensait que ce petit groupe d'apôtres mettait la religion juive en danger. Et il se faisait le défenseur de la religion de ses pères. Il était très instruit dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, et qu'au temps du Christ, on appelait les Écritures, et qui se composait de la loi de Moïse, des psaumes et des prophètes. Il y avait trois grandes parties dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. La loi, les psaumes et les prophètes. C'était donc un homme qui avait été instruit à l'université de Jérusalem au pied d'un des meilleurs docteurs de son temps et il faisait partie de la secte ou du groupe qui suivait le plus près possible toutes les traditions des pères. Et c'était un pratiquant. C'était donc un homme absolument sincère dans sa religion et il voulait défendre sa religion de naissance et la religion de ses pères. Alors, de quel droit Paul s'appelle-t-il apôtre ou envoyé, lui qui n'avait pas connu le Christ selon la chair? Eh bien, si vous lisez le livre des Actes des apôtres, vous apprenez qu'il est arrivé à cet homme, à ce Saul de Tarse, une expérience extraordinaire. Un événement a bouleversé sa vie, comme ça peut arriver dans chacune de nos vies. Quelquefois, il y a des événements qui bouleversent complètement notre vie, qui donnent une orientation tout à fait différente à notre vie et qui nous fait changer entièrement de conception, de pensée. Et cela lui est arrivé à un moment où il n'y pensait absolument pas. Il avait vu couler le sang du premier martyr chrétien qui s'appelait Étienne. Et non content d'avoir vu cet homme mourir, il était rempli de fureur et de rage et il voulait apporter la persécution dans les villes autres que celles de Jérusalem. Il voulait même aller jusqu'en Syrie. Et la capitale de la Syrie, c'était donc Damas. Et c'est quand il avait reçu les pouvoirs des principaux de son peuple, des principaux juifs, qu'il est parti pour mettre en prison, pour amener les chrétiens de Damas à abjurer leur foi et les faire revenir au judaïsme. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le Seigneur. C'était midi, et nous lisons tout cela dans le livre des Actes, quand tout à coup cet homme si sûr de lui, plein de haine et de violence, est terrassé de sa monture, et dans une lumière éblouissante qui l'aveugle, il entend une voix du ciel qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et c'est là l'événement extraordinaire. Et lui, dans la poussière, au milieu de ses soldats, s'écrie « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et il entend cette voix qui devait le bouleverser à jamais « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors tout à coup, un voile vraiment s'est déchiré devant ses yeux. Et il a compris que c'est Étienne qu'il avait vu mourir et qui avait dit en mourant « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu ». Il avait compris que ce n'était pas un visionnaire, qu'Étienne, en mourant, avait rendu un témoignage authentique à ce Jésus, que lui croyait mort, que les disciples présentaient comme ressuscité, disaient qu'ils avaient été témoins de cette résurrection, et lui, il apprenait qu'en effet, c'était vrai. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Paul a vu le Seigneur. Et c'est parce qu'il a vu le Seigneur qu'il peut s'appeler apôtre. Pour être apôtre, au vrai sens du terme, il fallait avoir vu le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, lui, ce Saul de Tarse, quand est-ce qu'il a vu le Seigneur ? Il l'a vu après sa résurrection. Il l'a vu ressuscité. Et il l'a vu où ? Dans le ciel. Donc le ciel est un lieu. Les navettes spatiales peuvent aller très loin, mais elles n'ont pas encore pu s'arracher à l'état d'apesanteur pour aller dans les cieux des cieux où se trouve notre Seigneur. Il s'arrache bien sûr à l'attraction de la terre, mais ils ne peuvent pas connaître une fois qu'ils sont là-haut l'attraction du ciel, cette attraction puissante qui nous arrache vraiment à cette création pour nous introduire dans ce lieu que Jésus appelait la maison du Père et qu'aucun des astronautes n'a jamais entrevu. Ils croient qu'ils sont allés loin, mais ils n'ont pas encore été si haut. Et nous croyons à ces cieux des cieux, et nous croyons qu'il y a là un homme qui a passé sur la terre et qui s'appelait Jésus, et qui est maintenant glorifié, et qui est le modèle de ce que nous serons un jour. C'est pas fantastique? Et quand notre enlèvement aura lieu, ce ne sera pas pour retomber comme ça a été le cas, hélas, il y a quelques jours seulement. Nous attendons un autre enlèvement. Celui que le Seigneur lui-même, qui a été ressuscité, qui est sorti de la tombe, qui a vaincu la mort, opérera par sa toute-puissance et avec tous les anges du ciel. Car nous sommes absolument convaincus qu'à l'enlèvement des croyants dont parle l'Écriture, il y aura une action angélique dans la création. Comme il y a eu une action angélique à l'incarnation, quand Jésus est né, les anges ont été manifestés, vous vous souvenez, dans les champs de Bethléem, ces champs que l'on peut visiter sur la terre. Il y a eu une action visible, une action angélique dans la création, comme aussi à sa résurrection, comme aussi à son ascension. Et nous croyons qu'à l'enlèvement des croyants, les anges auront leur part. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui est devant nous. Et de connaître ces choses, de savoir que ce sont des choses certaines et véritables. Et cela nous donne une espérance. Nous ne sommes pas pour toujours sur la terre. Et quand je dis cela, je ne dis pas que nous devons tous mourir un jour et quitter la terre par la mort et aller être ensevelis dans un sépulcre. Mais quand je dis que nous ne sommes pas pour toujours sur la terre, je souligne qu'il y a une génération qui ne connaîtra pas la mort et qui sera enlevée, transmuée en un instant, en un clin d'œil, par la toute-puissance du Seigneur. Le jour et l'heure de cet événement, nous ne les connaissons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu connaît ce jour. Comme il a connu le jour de l'incarnation, où son Fils viendrait. Il sait le jour où il doit revenir. Quand le temps sera là, rien n'empêchera l'accomplissement des pensées de Dieu. Alors donc, ce Paul a vu le Seigneur dans la gloire et il peut se nommer apôtre. Mais vous voyez, alors, il souligne bien que lui, son apostolat, il ne l'a pas reçu de la part des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait de lui un apôtre, un envoyé. Ce n'est pas par l'homme, ni de la part des hommes, ni par l'homme. Mais par qui? Par Jésus-Christ et Dieu le Père. Jésus-Christ est retourné auprès de qui? Auprès de son Père. Et c'est par Jésus-Christ ressuscité et qu'il a été fait apôtre. Dieu le Père, et il est dit que Dieu le Père a ressuscité d'entre les morts qui? Jésus-Christ. C'est toute la Trinité, au fond, qui a part à la résurrection de Jésus-Christ. Ici, la résurrection de Jésus-Christ, elle est attribuée à qui? Au Père. En tant qu'homme, parce que Jésus a été vraiment un homme, c'est le Père qui a ressuscité son Fils. Mais en tant que Dieu, c'est Jésus lui-même qui est ressuscité des morts. Par sa propre puissance, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Mais dans le chapitre 1er des Romains, la résurrection est attribuée à qui? Au Saint-Esprit. Il est dit qu'il a été déterminé fils de Dieu par le Saint-Esprit, par la résurrection d'entre les morts. Donc, vous voyez, Père, Fils et Saint-Esprit ont part à cette résurrection. Et quand il sera question de la résurrection des morts, c'est aussi la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit, qui entre en action pour notre propre résurrection si nous sommes morts au moment du retour du Seigneur. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants, nous serons enlevés. Alors, il faut bien comprendre cela. Paul est l'apôtre, non pas simplement du Jésus historique, du Jésus qui a vécu au milieu des hommes, de ses disciples, mais il est l'apôtre de Jésus glorifié, de Jésus ressuscité. Et il adjoint aussi tous les frères qui sont avec lui, ses compagnons d'œuvre, et nous en connaissons quelques-uns, hein, Timothée, Tite, et bien d'autres encore. Ils sont donc d'accord pour écrire cette lettre. Il n'écrit pas cette lettre seul, mais avec ceux qui l'entourent et qu'il appelle les frères, parce qu'ils ont le même père. Hein? Et ils étaient avec lui. Alors, à qui adresse-t-il sa lettre? On a vu qui est l'auteur de la lettre, c'est Paul, hein? Converti au Seigneur sur le chemin de Damas. Mais il adresse sa lettre aux églises de Galatie. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous n'allons pas en rester aux églises de Galatie, mais nous voulions recevoir le message de cette épître, de cette lettre, comme étant un message que Dieu, par son esprit, nous adresse encore à qui? À nous qui sommes au Québec. Donc, c'est un message adressé aux églises du Québec. Et vous me direz, à laquelle? Ben, il y a plusieurs églises au Québec, vous êtes d'accord? En tout cas, plusieurs groupes prétendent être des églises. Eh bien, je n'en accepte aucune. Vous faites partie de l'Église romaine? C'est à vous que l'Épître aux Galates s'adresse. À vous qui faites partie, depuis votre naissance, de l'Église romaine. Bon. À vous qui faites partie d'une Église dite orthodoxe, grecque ou autre. À vous qui faites partie d'une Église issue de la Réforme, du protestantisme, ou d'une Église d'une affaire politique comme l'anglicanisme, ou d'une Église justement qui se nomme d'après un des réformateurs, Luther ou Calvin, ou d'autres encore. On pourrait parler des Églises méthodistes, et des églises baptistes ou des églises mennonites, des frères chrétiens, j'ai dit, d'une église quelconque qui se dit évangélique, tout rassemblement qui prétend se réclamer de Jésus-Christ est appelé une église. Et cela, vous devez l'admettre clairement pour qu'il n'y ait rien de sectaire. Car le Seigneur lui-même, quand il s'adresse depuis la gloire aux églises de l'Apocalypse, que nous voyons dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, il ne dit pas qu'il s'adresse seulement à une église, seulement celle d'Éphèse ou seulement celle de Philadelphie. Il dit aux sept églises, et dans les sept églises, il comprend laquelle? La Odyssée. Il les appelle des églises. Donc, vous réclamez d'une église quelconque, eh bien, dites-vous bien que ce message est pour vous qui êtes dans cette église, dans votre église. Vous êtes maintenant concerné. C'est à toutes les églises de Galatie. Il n'a pas dit seulement à l'église d'Iconium, qui était une ville de Galatie, ou seulement à l'église de Derbe. Il dit à toutes les églises qui sont en Galatie, aux églises, donc au pluriel. Alors, quel est le souhait qu'il leur fait? Que la grâce et la paix vous soient données. C'est ce qui devrait être toujours dans nos cœurs. Mais si vous connaissez un peu les autres épîtres de Paul, vous serez un peu surpris de voir que dans cette lettre ici, Paul ne parle pas de ce que sont les croyants de ces églises. Il ne dit pas je reconnais votre foi, votre travail d'amour, votre patience, d'espérance. Il ne les appelle pas directement bien-aimés. Il est plutôt assez froid dans son introduction, ce qui ressemble guère à l'apôtre Paul. C'est qu'il a quelque chose dans son cœur qui le fait terriblement souffrir. Et on le voit tout de suite dans le début de sa lettre, il n'épanche pas son cœur avec la même joie que quand il écrit à d'autres croyants. Mais quand même, le souhait apostolique, c'est toujours le même, la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes de ceux qui avez le cœur tellement rempli du Seigneur que vous souhaitez la grâce et la paix pour toutes les églises? Ou bien est-ce que vous ne souhaitez la grâce et la paix que pour votre petit groupe, que pour votre milieu, que pour le groupe dont vous faites partie, vous? Ah oui, nous la voulons, la grâce. Mais la grâce, elle est pour tous. Que la grâce et la paix. La paix. Nous souhaitons la paix à toutes les âmes. Nous souhaitons la paix dans toutes les églises, quel que soit leur état, leur condition. Que la grâce et la paix. Même si nous avons une grande souffrance au sujet de ce qui se passe, de ce qu'on tolère ou de ce qu'on a ajouté dans certaines églises, nous souhaitons à tous la grâce et la paix. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Bien, la grâce, c'est ce qui est venu par Jésus-Christ. Alors, toutes les églises se réclament de Jésus-Christ. La loi est venue par qui? Par Moïse, dit l'Écriture. Hein? Mais la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Alors, vous vous réclamez de Jésus-Christ? Eh bien, je vous souhaite que la grâce de Jésus-Christ vous soit donnée. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est cela que nous devons apporter aux églises, cette grâce de Jésus-Christ. De sa plénitude, dit l'Écriture, nous avons reçu grâce sur grâce. Je vous souhaite la grâce dont vous avez besoin aujourd'hui, la grâce dont vous aurez besoin demain, la grâce dont vous aurez besoin tous les jours de votre vie. Parce que on est sauvé uniquement par grâce, c'est un don gratuit, et puis chaque jour, nous vivons de la grâce de Dieu, et c'est cette grâce qui nous fortifie, c'est cette grâce qui nous enseigne comment nous devons vivre dans ce monde. Donc nous avons constamment besoin de la grâce. Et dans un monde troublé comme le nôtre, nous avons besoin de quoi? De la paix. Dans nos familles, vous avez besoin de la paix. Entre mari et femme, ça ne vous arrive pas d'avoir des tiraillements. Nous avons besoin de la paix dans nos foyers. Entre mari et femme, entre les enfants et les parents, toujours nous avons besoin de cette paix. Et cette paix, ce n'est pas n'importe quelle paix. Hein. Ce n'est pas la paix de l'ONU. C'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui peut garder nos cœurs qui si souvent se troublent et nos pensées qui si souvent s'agitent en Jésus-Christ. Restez dans la paix au sein de tous les troubles. Voilà ce que l'apôtre souhaitait donc aux Galates. Et il voulait que cette paix et cette grâce leur soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas séparer le Fils du Père, pas plus qu'on ne peut séparer le Saint-Esprit du Père et du Fils. C'est un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Et ce Jésus-Christ, verset 4, qu'est-ce que nous apprenons de lui? Qui nous l'a donné, Jésus-Christ? C'est le Père, hein, puisque c'est son Fils. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que si qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Père nous a donné le Fils, et le Fils, qui s'appelle Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. C'est beau, hein? Il s'est donné lui-même. Lui-même, volontairement, il s'est donné. Mais il s'est donné pour qui? Il s'est donné pour nos péchés. Donc, nous sommes concernés, à moins que vous soyez des gens sans péché. Si vous êtes sans péché, Jésus n'est pas venu pour vous, alors. Mais si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous savez que Jésus s'est donné pour vos péchés. Donc, il y a eu un événement qui devrait vous libérer dans votre vie, libérer aussi votre conscience, pour que vous ne soyez plus inquiet quant à votre âme, et quant à votre salut, et quant à cette vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Mais il n'y a rien à faire. Quelqu'un s'est donné pour nos péchés. Et si le Père nous l'a donné, si le Fils s'est donné pour nos péchés, de notre côté, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Le recevoir. L'avez-vous reçu? Dans cette journée du 8 février, est-ce que vous pouvez dire que le Christ, vous l'avez vraiment reçu, qu'il n'est pas extérieur à vous, que vous n'avez pas simplement une image du Christ? Oh, vous savez, moi j'aime beaucoup le Christ, j'ai mon crucifix, j'aime beaucoup le Christ, je prie devant mon crucifix, ou bien je prie devant une image qui le représente. Ben, alors c'est toujours un Christ extérieur. Ce que je vous demande, c'est, est-ce qu'il est entré dans votre cœur? Est-ce qu'il y est, non pas simplement quand vous communiez et que vous dites que vous recevez le Christ, mais je vous dis habituellement, est-ce que le Christ est en vous, même quand vous dormez, n'est-ce pas? Le Christ est en vous. C'est cela, avoir le Christ en soi, non plus un Christ extérieur, mais un Christ qui est vraiment intérieur. Il s'est donné pour nos péchés. Et puis, en vue de quoi? Vous voyez la force du terme. Je ne sais pas quelle Bible vous avez, probablement la seconde, hein, parce que vous avez, on a lu dans, pour essayer de peut-être faire une première approche dans le français courant, mais littéralement, il faut lire, afin de nous arracher. C'est pas seulement de nous sortir. Comment est-ce qu'il est dit là dans le français courant? Le Christ s'est livré lui-même pour nous, sauvé de nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde. Hein, de nous délivrer de ce monde. Mais c'est plus qu'une délivrance. C'est de nous arracher. La force du terme, c'est, il s'est donné pour nous arracher du présent siècle mauvais. Et qu'est-ce que c'est ce présent siècle mauvais? C'est ce monde. Ce monde. Et depuis quand est-ce que ce monde est mauvais? Ben, quand Dieu l'a créé, il ne l'a pas créé mauvais. Hein. Mais il est devenu mauvais quand l'homme qui devait le diriger a passé la main à qui? À Satan. C'est Satan que l'homme a écouté. Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre. Et tant qu'il restait dans la soumission à Dieu, Dieu le visiterait, Dieu le bénirait, et ce monde ne serait jamais mauvais. Mais, il lui avait dit, si tu désobéis, tu mourras certainement. Et au fond, l'homme a écouté Satan par la voix de sa femme, qui a été séduite la première, mais alors que l'homme aurait dû dire non, eh bien, il a cédé et il est entré, au fond, dans l'esclavage de Satan. De sorte que l'homme, depuis la chute, c'est plus un être libre. Vous vous croyez libre, mais c'est pas vrai. L'homme n'est plus un être libre. Il a encore une intelligence remarquable, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il fait de son intelligence? Il l'emploie pour détruire, hein, pour faire le mal. On est près du 20e siècle, du 21e siècle, hein, on est à la fin du 20e siècle, l'intelligence de l'homme semble être arrivée à son apogée, l'homme est vraiment de la race de Dieu, mais toute cette intelligence est détournée pour le mal, en vue de quoi? De la destruction du monde. Et même les athées sont dans l'angoisse, parce qu'ils disent que si on laisse les choses se continuer, le monde va à la destruction. Eh bien, le Seigneur voudrait nous arracher. Comment est-ce qu'il va faire? C'est encore dans son programme. Vous savez, hein, on parle que les fusées, elles s'arrachent du sol. Hein. Ben, le Seigneur, lui, va nous arracher. Et il s'est donné pour nous arracher à ce présent siècle mauvais. Non pas pour que nous périssions dans le présent siècle mauvais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, est-ce que vous attendez de périr? Dieu ne veut pas que vous périssiez, mais que vous ayez la vie éternelle. Et le Seigneur s'est donné pour nous arracher à ce présent siècle mauvais. Est-ce qu'on peut l'améliorer, ce siècle mauvais, nous-mêmes? Il y en a qui croient qu'on peut améliorer le monde. Est-ce que vous voyez que depuis le commencement, le monde s'est amélioré? Soyez réalistes, ayez la tête sur les épaules, hein, et les pieds sur la terre. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous améliorer? Pas même. Non, non, non. Il n'en est pas question. Tant que vous pensez que vous pouvez vous améliorer vous-même, vous arriverez à des déceptions et peut-être à une dépression nerveuse. Parce que tout d'un coup, vous réaliserez que vous n'êtes pas amélioré. Il y a tant d'années que je suis au Seigneur, puis je suis toujours aussi crasseux intérieurement, hein. C'est toujours la même grâce. Tout d'un coup, on se découvre. Et voyez-vous, tous les hommes de la Bible ont fait cette découverte. Des hommes pieux, quand ils se sont vus tout à coup devant la gloire de Dieu, ils ont perdu la face. Ils ont changé de couleur. Vous pouvez reprendre cela depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les hommes les plus saints, les plus pieux, comme un Job, il dit... Job, qui était pourtant si pieux, Dieu disait, il n'y en a pas un comme lui. Quand il s'est vu dans la lumière de Dieu, il dit, j'ai horreur de moi. J'ai horreur de moi. Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Tout à coup, on réalise que même simplement le péché des lèvres, oh, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de mal à personne, mais pourtant mes lèvres sont impurs. Et tout à coup, bien voilà, on perd pied. Non, mes amis, le monde mauvais ne s'améliorera pas par les efforts des hommes de bonne volonté. Or, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on enseigne, hein, la plupart du temps. Et on vous donne l'illusion que ça va aller mieux. Eh bien, moi, je ne suis pas payé pour vous remplir le cœur d'illusions. Je vous dis que ça n'ira pas mieux. Mais je ne vais pas vous désespérer. Je vais vous montrer un chemin où tout est changé, où tout est transformé. Et c'est là que je dois être fidèle, où que je sois, dans n'importe quelle église, où je suis amené à prêcher, ou dans n'importe quelle salle, devant n'importe quel public. Même si ça ne plaît pas, mais je dois dire la vérité. Il veut nous arracher de ce présent siècle mauvais. Ce n'est pas nous qui pouvons nous arracher, hein. C'est lui. selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est fantastique ça. Quelle est la volonté de Dieu? Vous périssiez? Non. Il a donné son Fils unique. C'est donc sa volonté que vous soyez sauvés. Alors ça, croyez-le éperdument, même si vous vous voyez épouvantable, hein, après X années que vous dites, mais j'ai fait vraiment aucun progrès. Ben, c'est ça que je veux vous dire. Bien même si vous constatez, je suis encore pire qu'avant. Eh bien, il y a progrès quand vous dites ça. Parce que vous voyez plus clair. C'est pas parce que vous êtes devenu plus mauvais, mais c'est parce qu'il y a plus de lumière. Et tant qu'on est dans l'obscurité, on ne voit pas les taches qu'on a sur ses habits. Hein. Mais une fois que vous êtes dans la grande lumière, ben oui, je constate que c'est pas si propre que ça. Alors, plus vous avancez, plus le Seigneur vous donne sa lumière, plus vous vous voyez mauvais, plus vous dites, comme c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur. Parce que si vous êtes un petit pécheur, vous avez besoin d'un petit sauveur. Le petit Jésus. Oh, le petit Jésus. Il a été petit, mais il est grand, notre Seigneur. Et il a vaincu la mort. Alors, comprenez cela. La volonté de notre Dieu, de Dieu le Père, c'est que nous soyons sauvés. C'est ça sa pensée. C'est pas que vous soyez perdus. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. C'est pas vrai. Dieu veut que vous soyez sauvés. Mais il vous faut accepter son chemin, alors. Parce que si vous vous détournez de lui pour suivre vos propres voies, vous arriverez où? À la mort et à la perdition, mais parce que vous l'aurez voulu. C'est pas Dieu qui veut la mort du pécheur. Qu'est-ce qu'il veut? Sa conversion. Et nous l'avons bien souligné ce matin, c'est pas un changement de religion, mais c'est un changement de vie, un changement d'orientation. Et alors, à ce Père qui veut notre salut, on peut bien dire, verset 5, à lui soit la gloire. Il n'y a pas de gloire pour nous si nous sommes sauvés. Je ne peux pas me présenter comme un type glorieux. Je suis un pauvre misérable. Mais à qui la miséricorde de Dieu a été faite? Je connais la miséricorde parce que j'étais un misérable. Vous comprenez? C'est seulement les misérables qui connaissent la miséricorde de Dieu. Alors, à lui soit gloire au siècle des siècles. Donc, dans notre fin de siècle aussi, nous donnons toute gloire au Seigneur. Alors que les hommes, ils donnent la gloire à qui? Aux hommes. Qu'est-ce que vous voyez dans ce monde? On ne parle que de la gloire de celui-ci, de la gloire de celui-là. Les gens se gargarisent de leur propre gloire. Alors, verset 6, après cette salutation et cette expression de la volonté de Dieu, l'apôtre dit, je m'étonne. Il a un étonnement. Je m'étonne, verset 6 à 10, nous trouvons donc pourquoi l'apôtre écrit cet épître. Une autre version dit j'admire, mais je n'aime pas tellement ça, parce qu'au fond, alors, il n'admire rien du tout, hein, mais il est tellement étonné, il dit c'est incroyable, hein, c'est admirable comme vous pouvez vite vous détourner, mais c'est pas cela, hein. Il est étonné, il est attristé. Mais lui qui leur a annoncé le vrai évangile, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de qui? De qui est-ce qu'on se détourne quand on ne suit pas l'évangile? De Dieu, de celui qui vous a appelé. Qui est-ce qui nous a appelé? Qui nous a appelé? C'est Dieu. Mais par qui est-ce qu'il nous a appelés? Par la grâce de Christ. Il ne nous a pas appelés parce qu'il a vu en nous quelque chose de bon, hein, ou quelque chose qui pouvait s'améliorer. Il n'a pas dit, ben, ceux-là, je peux leur faire confiance, ils vont bien marcher. Non. Ils vont faire des progrès tellement fantastiques que je peux compter sur eux. Dieu ne compte pas sur vous. Mais il nous a appelés par la grâce de Christ. Alors là, je voudrais bien souligner tout de suite quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est un don qui est gratuit. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. À qui est-ce qu'on parle de grâce? À un condamné. Quelqu'un qui a été condamné, hein, on peut lui parler de grâce. Vous avez bien compris cela? Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que la grâce, vous devez accepter la condamnation. Devant Dieu, je suis un condamné, je suis pécheur, je suis condamné, je ne peux pas trouver d'excuse. Mais voilà, ce Dieu nous a appelés par la grâce de Christ. La grâce, donc, qui nous est faite, ce salut qui est gratuit pour nous, il faut bien vous dire qu'il a coûté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a coûté au Christ? La mort. Vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre. Quelle qu'ait été votre manière de vivre, vous avez été racheté avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, dit l'apôtre Pierre? Non. Par le sang du Christ. Par le sang de l'agneau, par le sang du Christ. Donc, souvenez-vous toujours que la grâce, si elle est gratuite pour vous, elle n'a pas été gratuite pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a payé le prix de votre salut. Quand on vous dit que le salut est gratuit, c'est vrai, hein? Vous ne pouvez rien payer vous-même. Mais souvenez-vous que quelqu'un a payé pour vous. Et qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé au prix de quoi? De sa vie. Si vous, vous êtes sauvé, c'est parce qu'un autre a donné pour vous sa vie. Vous, vous deviez mourir. Vous étiez condamné à mort. Mais quelqu'un a pris votre place. Est-ce que c'est assez simple? Quelqu'un a pris votre place. Et qui est ce quelqu'un? C'est Jésus. Ce Jésus que Dieu vous a donné et qui est le Fils unique de Dieu. Vous comprenez que maintenant le plus grand des péchés, la plus grande des offenses, ce qui perd un homme, c'est de refuser qui? Jésus-Christ. C'est de refuser ce que Dieu vous a donné. Comment cela se peut-il que je puisse refuser le don de Dieu? Le don de Dieu, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Oui. Alors, voilà, l'évangile que Paul avait prêché, c'était cet évangile que Dieu les avait appelés par la grâce. Et puis, maintenant, il passait à un autre évangile. Un autre évangile. Mais il se reprend, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas une autre bonne nouvelle, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Voyez-vous, l'évangile du Christ, c'est quelque chose de tellement merveilleux, il ne faut pas le laisser altérer. Et comment est-ce qu'on peut altérer l'évangile du Christ? Eh bien, nous allons le voir. Mais vous voyez ce que Paul dit. Mais si nous-mêmes, donc, ce que Paul leur a prêché un jour, c'est pas les idées qu'il avait à tel âge, puis après, à un autre âge, on change d'idée, hein, comme nous, c'est souvent le cas. Mais ce qu'il leur a prêché, c'est vraiment la vérité. De sorte qu'il dit, si maintenant, moi, je venais vous dire autre chose que ce que je vous ai prêché, que je sois maudit. Vous comprenez? Vous pouvez être sûr de cela. Et même si un ange du ciel, vous voyez que ça va loin, hein, c'est pas même des saints. Si un ange du ciel venait vous annoncer un évangile différent qui s'écarte de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Hein? Donc ça ne doit pas vous troubler. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et si vous voulez savoir quel évangile Paul avait prêché aux églises de Galates, des Galates, lisez le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et vous verrez quel a été cet évangile qu'il a prêché. Alors, maintenant, à partir du verset 10, nous allons voir comment il nous dit avoir reçu son évangile. L'évangile que les apôtres qui ont connu le Christ prêchaient, ils l'avaient reçu du Christ quand il était dans son corps de chair. Hein. Ils avaient reçu l'évangile de Jésus pendant les 3 années où ils avaient été à son école. Mais Paul, lui, il n'avait pas connu cette école du Christ. Alors, on voulait laisser croire aux Galates que Paul n'avait pas la même autorité que les vrais apôtres. Alors, Paul va maintenant faire son apologie ou nous montrer ce qu'il peut avancer pour sa défense. Maintenant, est-ce que je cherche la faveur des hommes, est-ce que je désire cette faveur ou bien celle de Dieu? Voilà une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous recherchez, vous? La faveur des hommes ou celle de Dieu? Et il ne va pas parler pour lui-même, lui. Il parle pour Dieu parce que c'est à Dieu qu'il devra répondre. Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Aujourd'hui, on nous dit, mais vous savez, ces jeunes, par exemple, ils aiment ceci, ils aiment cela, alors il faut aller au-devant de leurs désirs. Hein. Parce que sinon, on ne les aura plus. On ne les aura plus. On ne les a quand même pas. Mais si on leur prêchait vraiment la vérité, on les aurait peut-être. Parce qu'au fond, les jeunes, ce qu'ils voudraient, c'est la vérité. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas eu qu'avant 20 ans, au Québec, on se suicide. C'est parce qu'on n'a pas donné la vérité à tant de jeunes au Québec qu'à 20 ans, le Québec est le pays du monde où il y a le plus de suicides. Il y a le plus de suicides avant 20 ans dans le Québec. C'est absolument certain d'après les statistiques. C'est le pays du monde où il y a le plus de suicides de jeunes qui n'atteignent pas 20 ans. C'est quand même effroyable. Alors donc, c'est qu'ils n'ont pas eu la vérité. Parce que se donner la mort, c'est pas la vérité. C'est pas du tout la vérité. Alors, vous voyez comme cet épître est actuel aussi pour nous, Québécois, pour nous qui vivons dans ce pays. Alors, est-ce que nous allons chercher la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Est-ce que nous allons chercher à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Malgré toutes les lettres que je pourrais mettre après mon nom, malgré tous les titres dont je pourrais me glorifier, je ne serai pas le serviteur de Christ. Alors, ce qui compte pour vous, c'est que vous soyez serviteur du Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, et reprenez le chapitre 13 des Actes, il n'est pas de l'homme. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Il avait appris son judaïsme, sa religion, il l'avait appris au pied de Gamaliel, un grand professeur de Jérusalem. Mais ce n'était pas cela qu'il prêchait. Il ne prêchait pas ce qu'il avait appris de sa religion d'enfance, ou d'adolescence, ou d'étudiant. Il prêchait ce qu'il avait reçu par une révélation de qui? De Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qu'il n'avait pas connu selon la chair. Et alors, il nous raconte ce qu'il était avant, verset 13. Cette révélation de Jésus-Christ, pour lui, elle a commencé où? À midi, sur le chemin de Damas, quand il a appris que Jésus était réellement ressuscité. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Vous avez qu'à lire le livre des Actes. Hein. Comment je persécutais à outrance et ravageais, quoi? L'église de Dieu. L'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous savez ce que c'est les traditions des pères? Vous pourriez mettre un autre nom là. Comment j'étais plus avancé, au lieu de mettre dans le judaïsme, vous pourriez mettre un autre nom du christianisme. Mais si vous devenez fanatique, attention,
Il y en a qui sont zélés, c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont zélés avec intelligence pour Dieu, ou bien est-ce qu'ils sont zélés pour faire valoir les traditions des pères? Voyez-vous, les hommes, hein, ils ont ajouté sans cesse à l'Évangile. Et puis, au final, vous croyez davantage que les hommes ont ajouté que l'Évangile tout seul. J'ai entendu un jour, je faisais une conférence au Montmartre canadien, à Québec, et on m'avait demandé, des prêtres m'avaient demandé de présenter le chapitre 3 des Romains. Et quand j'ai terminé, il y avait là environ 300 personnes, et quelqu'un a dit, mais alors, si c'est vrai ce que vous avez lu, à quoi ça sert le purgatoire? Je n'avais pas voulu parler du purgatoire, mais voilà, cette personne comprenait, mais le purgatoire alors. Et le prêtre est tout de suite venu au micro, puis il dit, en attendant que notre frère Gaston vous explique, je voudrais tout de suite vous dire que le purgatoire, ce n'est pas une doctrine biblique. Ça a été ajouté au cours des âges. Il avait cette loyauté et cette droiture. Mais à cause de cette doctrine du purgatoire, pendant toute leur vie, les gens ont peur. Et ça a donné pas mal de finances à l'Église. Hein. Voilà, quand on a besoin d'argent. Alors, on dévie. Eh bien, c'est de toutes ces déviations que nous devons revenir. Et il y a autant de déviations chez les chrétiens dits évangéliques que dans l'Église romaine, croyez-le bien. Il faut chacun balayer devant notre porte. Et il faut chacun nous juger de notre propre péché. C'est comme ça que vous avancerez. Mais si vous voyez toujours la poutre qui est dans l'œil de l'autre, la paille, je veux dire, dans l'œil de l'autre, vous ne voyez pas la poutre qui est dans la vôtre. Ça, c'est l'enseignement biblique. C'est l'enseignement de Jésus. Demandons à Dieu qu'il nous montre d'abord la poutre qui est dans notre œil, puis après on pourra parler de la paille qui est dans l'œil des autres. Hein? Alors, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Tout à coup, on apprend. On pouvait être loin de Dieu, on pouvait être contre Dieu tout en étant très religieux. On était sincère dans notre religion. Mais on faisait des bêtises, on faisait des choses tout à fait fausses. Hein? Mais Dieu vous aimait quand même. Et depuis quand est-ce qu'il vous aimait? Vous le savez? Quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Vous vous souvenez de ça? Vous ne vouliez pas sortir? Si on vous avait dit, est-ce que tu veux sortir? Je suis tellement bien là-dedans, je manque de rien, je suis au chaud, mon pays c'est pas l'hiver, mon pays ben, c'est ma mère, je suis dans le sein de ma mère, c'est une belle vie. Puis voilà, il a fallu que vous sortiez, mais voilà, vous avez été accueillis. Eh bien, il vous aimait. Il vous aimait. Dans le sein de votre mère. C'est lui qui vous a formé. C'est quelque chose de fantastique. Relisez le psaume 139, les femmes enceintes. Et il y a un travail de Dieu qui se fait en vous. C'est pas simplement parce que vous avez eu une relation avec votre mari. Mais c'est parce que Dieu façonne en vous ce petit être et qu'il veut pour lui. Et ce petit être, il l'aime déjà. Et il a des pensées pour ce petit être qui va naître. C'est fantastique quand vous revenez vraiment à l'écriture. On en est bien loin aujourd'hui. Hein. Quand on voit tous les plans des hommes, etc., ce qu'ils veulent faire. Prendre la place de Dieu. Il vous avait mis à part dès le sein de ma mère. Il m'avait mis à part, et qui m'a appelé par sa grâce. Est-ce qu'il a été appelé parce que c'était un type bien, Saul de Tarse? Non, c'était le dernier qu'on aurait appelé, un persécuteur des chrétiens, pour en faire l'évangélisateur des chrétiens, des païens, pour amener des païens. On l'aurait pas appris, celui-là. Hein. Il a fait trop de preuves, il a trop de preuves contre lui. On ne peut pas le changer. Bien justement, c'est lui que Dieu va changer, mais d'une façon radicale. Et ce que je voudrais, c'est que dans ces soirées, dans ces journées que nous passons ensemble, dans ces heures, qu'il y ait quelque chose de radical qui se fasse en vous. Parce que si ce n'est pas radical, vous serez toujours flottant. Or, nous désirons que vous deveniez des hommes et des femmes, comme vous aimez tellement le dire au Québec, des gens qui se tiennent debout. Hein? Bon, vous voulez vous tenir debout. Eh bien, allez au Christ. Il vous a appelé par sa grâce, pas parce que vous méritiez quelque chose, mais par sa grâce. Parce que Dieu vous aime, parce qu'il ne veut pas votre mort. Il ne vous a pas créé pour la perdition. Il vous a créé pour le salut. Et vous devez bien comprendre. Alors, dans sa grâce, il y a un moment où il trouve bon de révéler son Fils en moi. C'est ce que Saul de Tarsie, il a trouvé bon à un moment donné de me révéler son Fils. Est-ce que vous êtes chrétien par tradition, par éducation, ou bien vous l'êtes par révélation? Tout à coup, ça vous est révélé. Le voile tombe. Hein. Puis vous devenez authentiquement chrétien, non pas parce que vous êtes né dans telle ou telle église. Ça, c'est tout à fait secondaire. Vous n'avez pas demandé de naître dans le milieu où vous étiez. Et c'est ça qui est dramatique. Vous naissez dans une église ou vous naissez dans une autre, puis après on vous oppose, hein, parce que vous êtes d'une autre église. Et on ne se connaît pas. On n'a pas demandé de naître là, on n'a pas demandé de recevoir telle ou telle éducation. Et pourtant, on a la même Bible maintenant. Alors nous voulons revenir ensemble à la Bible. Toutes les églises, les uns et les autres, quelle que soit l'église à laquelle vous apparteniez, revenez à l'Écriture. Et qu'est-ce qu'elle nous révèle? Bien, elle nous révèle son Fils, Jésus. Puis elle nous le révèle pour qu'on l'annonce. Jésus a été annoncé par Paul aux païens. Il dit qu'il a été choisi pour l'annoncer aux païens. Voilà comment il est devenu apôtre. Qui a fait de lui un apôtre? C'est Jésus, qui l'a envoyé. Et vous avez cela dans ce chapitre 13, toujours, des Actes, où nous voyons qu'un jour, dans l'église d'Antioche, ils étaient en prière, et tout à coup, l'Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère pour lequel je les ai envoyés. » Et c'était un ministère tout à fait particulier. Ce n'était pas d'annoncer l'Évangile à des Juifs, mais d'annoncer l'Évangile à qui? À des païens. Les Juifs croyaient que c'était pour eux la religion, qu'il n'y avait qu'eux qui seraient sauvés. Et qu'est-ce que Dieu pensait, lui? Il voulait sauver le monde. Vous comprenez? Pas seulement un groupe. Dieu a tant aimé le monde. Et il voulait sauver le monde. Mais pour sauver le monde, il fallait qu'il y ait des prédicateurs qui aillent dans le monde, dans ce monde mauvais, pour leur faire connaître aussi l'Évangile, alors qu'ils étaient des adorateurs d'idoles. Alors il nous dit que quand il a eu cette révélation, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Qu'est-ce que c'est la chair et le sang? C'est ce qui nous caractérise, nous. C'est notre nature humaine. Hein. C'est pas à dire, bien, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois pas le faire? Il n'a pas regardé à ce qu'il était, lui. Dieu l'a appelé, il obéit. Parce que si vous regardez à ce que vous êtes, vous dites, je suis pas capable. Vous ne serez jamais capable si vous regardez à vous. Mais il dit, quand il m'a appelé, bien, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je n'ai pas regardé à moi, puis et je n'ai pas consulté non plus d'autres personnes. Parce que si vous commencez à consulter les autres, les uns vous diront ceci, les autres vous diront cela. Il dit, je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, c'était Pierre, Jacques, Jean et tout, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins à Damas. Alors, d'après le chapitre 9 des Actes, on apprend que dès que Paul s'est converti au Seigneur et qu'il a eu, pendant 3 jours, il a été en prière, lui qui allait persécuter les croyants de Damas, il était visité par un des anciens de cette église de Damas qui s'appelait Ananias et qui lui a juste dit un premier message, je suis envoyé pour que tu recouvres la vue, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître la volonté de Dieu, pour voir le juste, puis entendre les paroles de sa bouche, et tu seras son témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Alors il dit, j'ai annoncé Jésus. Quand on se convertit au Seigneur, de quoi est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? D'une nouvelle religion? Mais non, on parle de quelqu'un. on parle de celui que nous avons rencontré. De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Voilà que Jésus est devenu quelqu'un pour nous. Est-ce qu'il est devenu quelqu'un pour vous? Est-ce qu'il vous habite? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'habité? Est-ce qu'on sait que vous êtes habité par le Seigneur? C'est cela que le monde doit savoir, que vous êtes des gens habités par le Seigneur. Alors, ensuite, il nous dit que après avoir commencé d'évangéliser à Damas, il a été mis à part pendant 3 ans en Arabie. Je partis pour l'Arabie. Qu'est-ce que c'était l'Arabie? C'était le désert. Et vous savez, il y a 2 choses. La conversion, ça vous permet tout de suite de parler de celui qui vous habite, que vous avez rencontré. Mais quand on a un ministère, quand on doit être préparé pour un ministère, il faut une préparation. Et ça, c'est très frappant. Combien d'années Jésus a-t-il pris pour former ses disciples? 3 ans. Et ici, notre Paul, combien de temps est-ce qu'il a passé en Arabie? Dans le désert? 3 ans. Dans le désert, il n'y avait pas de professeur pour l'enseigner. Hein. Et c'est pendant ces 3 années que le Seigneur lui a donné la révélation de l'évangile qu'il a prêché et qu'il n'avait pas entendu du Christ terrestre, mais il l'a entendu du Christ glorifié. Alors, vous voyez, nous avons, quand nous lisons le Nouveau Testament, 2 sources de révélation. Nous avons le témoignage des apôtres, qui ont été les témoins oculaires de Jésus. Ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui, hein, et ils ont annoncé l'évangile. Puis maintenant, avec notre Paul, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un évangile qu'il a reçu d'où? Directement du ciel, de Jésus glorifié, sans intermédiaire des hommes. Et quand vous comparez l'évangile que les apôtres qui ont connu le Jésus terrestre annoncent, et l'évangile que Paul, qui n'a pas connu le Jésus terrestre, annonce, qu'est-ce que vous voyez? C'est le même évangile. Comprenez-vous? Il y a donc une autorité qui est donnée à tout le Nouveau Testament. Il y a 2 sources de révélation, celle que Jésus a faite à ses propres disciples, et celle que Jésus a faite à l'apôtre Paul. De sorte que Paul peut parler de son évangile. Il parle de son évangile, c'est un évangile qu'il a reçu directement du Seigneur et qui n'est pas contraire à d'autres, à l'autre évangile que les apôtres prêchent. Vous avez cela dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu, pourquoi ? Pour le salut de quiconque croit. Et du juif, premièrement, et du grec. Le grec, c'est le païen. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, et pour la foi, car le juste vivra de foi. » Voilà l'évangile de Paul. Et quand il écrit aux Corinthiens, au chapitre 15, il leur dit les grands points de son évangile. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, c'est les mêmes pensées. Alors, au verset 18, il nous montre que 3 ans plus tard, donc après ce temps en Arabie où il est seul, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Qui est Céphas? C'est Pierre. Hein? Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, qui était le frère du Seigneur, qui s'était converti donc après avoir été contre Jésus. Parce qu'il est dit que ses frères, d'abord, ne croyaient pas en lui. Puis, maintenant, ce Jacques s'est converti. Verset 20. dans ce que je vous ai écrit, voici, devant Dieu, je ne mens point. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas un menteur, Paul. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie, et il nous dit, j'étais un inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Donc ces églises qui étaient autour de Jérusalem, elles ne le connaissaient pas, on ne connaissait pas Paul de visage, mais qu'est-ce que ces églises avaient entendu dire de lui? Ben, on avait parlé de sa conversion, mais on ne le connaissait pas, donc on ne pouvait pas le glorifier. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Alors, qui est-ce qu'on glorifiait? On glorifiait Dieu, on ne glorifiait pas Paul, on ne le connaissait même pas. C'est beau ça, c'est pas un homme qui est mis en avant. Hein. Nous, les hommes, on se met toujours en avant. Ben là, vous voyez un homme qui n'est pas mis en avant et qui ne se met pas en avant. Il dit, mais ce qu'on disait de moi, ça poussait les gens à dire, gloire à qui? Gloire à Dieu. Voilà un homme changé. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Quand vous apprenez qu'un homme qui a fait tous les coups est transformé, est-ce que ça vous réjouit? Oui. Ben vous ne dites pas, oh cet homme, il est formidable. Mais vous dites, Dieu est formidable. C'est lui qui l'a transformé. C'est lui qui en a fait un autre homme, parce qu'il est question d'un autre homme. Comprenez-le bien. Il n'est pas question d'améliorer un homme, mais d'en faire un autre homme. Alors, chapitre 2, quelques mots. 14 ans après, donc pendant 14 ans, il n'a pas confronté son évangile avec celui des apôtres, sinon peut-être avec Pierre qu'il avait vu seul. 14 ans après, c'est l'histoire qu'on trouve dans le chapitre 15 des Actes. Il est monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et il avait aussi Tite avec lui, Tite qui est un païen converti. Et s'il est monté, il est monté d'après une révélation. Il ne s'est pas dit « je veux aller à Jérusalem, ça me plairait d'aller faire un tour à Jérusalem », non. Il a compris qu'il devait s'y rendre et y est monté. Et il leur a alors exposé l'évangile. Donc, 14 ans après avoir commencé son ministère, ils ont maintenant une confrontation à Jérusalem entre ce que Paul prêche et ce que eux prêchaient. J'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés. Qui est-ce qui étaient les grands hommes considérés à Jérusalem, dans l'Église? C'est l'apôtre Pierre en particulier, Jean, l'apôtre Jean. Et puis Jacques, le frère du Seigneur. Alors, il voulait savoir vraiment si, à quoi ils en étaient. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Parce que justement, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, dans cet après-midi, après que Paul ait évangélisé ces païens qui s'étaient formés en Église, en Galatie, il y avait des gens, des juifs de Jérusalem, qui croyaient bien au Seigneur Jésus peut-être, mais qui étaient venus dans ces églises en leur disant, vous savez, ça ne suffit pas de mettre votre confiance en Jésus-Christ, il faut que vous soyez circoncis. N'est-ce pas? Et donc, ils judaïsaient, ils voulaient les remettre sous la loi, comme si par la loi on pouvait être sauvé. Alors, Paul dit, bien, même quand on est allé à Jérusalem, les apôtres n'ont pas obligé Tite d'être circoncis. Et cela, justement, à cause des faux frères. Vous voyez, c'est ces faux frères qui sont venus en Galatie, qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Parce que vraiment, quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes rendus libre. Vous n'avez plus besoin de toutes sortes de pratiques. Comprenez-vous? Or, dans les églises, qu'est-ce qu'on vous demande surtout? Des pratiques, et vous en avez marre. Combien de gens disent, vous savez, moi je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on nous a tellement dit, il faut faire ceci, il faut faire ça. Puis vous savez bien, les pratiques, elles changent. Avant, vous ne pouviez pas communier si vous aviez mangé même un quartier de pommes, hein. Et puis, vous ne pouviez pas manger de la viande un certain jour. Il y avait toutes sortes de règles, et ces règles, elles ont changé. Mais peut-être qu'on va vous en remettre d'autres. Hein? Alors, vous les accepterez? revenez à l'Évangile, tenez-vous à ce que l'Évangile vous dit. Jésus a dit, mon joug, il est doux, et mon fardeau, il est léger. Vous croyez que c'est lui qui a institué tous ces règlements? Ce sont les hommes. Et c'est de cela que vous devez vous débarrasser. Parce que, voyez-vous, les hommes, ils ajoutent toujours. Et quand on ajoute, on affaiblit l'Évangile. Ajouter, c'est affaiblir l'Évangile, comme aussi retrancher. Rester avec ce que l'Évangile vous dit. Et là, personne ne peut vous détruire. Eh bien, si vos frères voudraient toujours épier notre liberté que nous avons en Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous, parmi vous. Parce que c'est pas pour lui que Paul fait ça, mais c'est pour eux, parce qu'il sait que sans ça, ils seront des malheureux. Parce que tout d'un coup, si on vous a mis toutes sortes de règlements, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez désobéir, vous n'aurez pas observé tel règlement. Et qu'est-ce que ça va mettre dans votre conscience? Vous ferez une dépression, vous sentirez accusé. Et il y a un tas de gens au Québec qui ne sont pas encore libérés de toutes ces accusations. Ils ont mauvaise conscience. Hein. C'est là la maladie. Et on nous dit, on nous a culpabilisés. L'Église nous a culpabilisés. Il y a quelque chose de vrai. Mais alors, d'un autre côté, parce qu'on nous a culpabilisés, maintenant, on ne veut plus entendre parler du péché. Il n'y a plus de péché. Hein. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous n'êtes pas coupable. Tout est bien. C'est l'amour. L'amour. Rendez-vous compte? Vous pouvez faire n'importe quoi. Que vous soyez gai, que vous soyez joyeux, c'est la même chose. Tout est justifiable. Puis vous vous pendez à 12 ans. Vous croyez que c'est beau, ça? Ça vous dit rien? Ça vous poigne pas? Hein? Ça nous parle? Puis on se dit, mais on n'est quand même pas insensé. Vous avez la Bible maintenant. On vous dit que vous pouvez lire la Bible. Avant, on vous disait qu'il ne fallait pas lire la Bible. Hein. Tout d'un coup, on vous dit, maintenant, vous pouvez la lire. Mais alors, on vous dit, oui, mais il ne faut pas trop la prendre au sérieux. C'est quand même détestable. Vous pouvez la prendre au sérieux. Alors, ne vous laissez plus diriger, dominer par les hommes, quels qu'ils soient. Et c'est bien ce qu'il dit, hein. Verset 6, ceux qui étaient les plus considérés, parce qu'on a toujours des gens très considérés et considérables, hein, ceux qui étaient les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point d'affection de personne. Ceux qui étaient les plus considérés ne nous imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, parce que vous savez, quand la grâce nous est accordée, on la reconnaît. Hein. Il n'y a pas besoin d'en parler. Hein. Mais on voit si quelqu'un a reçu la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui se voit. Paul et Barnabas ont vu la grâce de Dieu chez les premiers chrétiens d'Antioche, par exemple. Il a dit, quand ils eurent vu la grâce de Dieu, ils les exhortèrent de demeurer attachés au Seigneur. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Et vous savez que Paul a organisé des collectes pour les juifs, justement, de Jérusalem. Et il a demandé aux païens convertis de donner de leurs biens pour soutenir ceux qui passaient par la persécution à Jérusalem, en leur disant, c'est quand même de Jérusalem que nous avons reçu aussi l'Évangile. Donc Paul n'était pas contre Pierre ou contre Jean. Mais un jour, il raconte que l'apôtre Pierre est venu à Antioche et qu'il a dû lui résister en face. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, qui était le premier des apôtres? Mais en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, donc qui était un frère de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Est-ce que c'était la première fois qu'il mangeait avec les païens, Pierre? Non, c'est lui-même qui avait dû aller la première fois manger avec quel païen? Corneille. Et il leur dit, quand il entre chez Corneille, vous savez que pour un juif, c'est interdit de manger avec des païens. Mais il dit, mais Dieu m'a appris de ne considérer aucun homme comme impur. Mais quand tout dans le monde, quand quelqu'un craint Dieu, eh bien, c'est un homme que Dieu aime. Mais vous voyez, on peut apprendre quelque chose et puis après, l'oublier. On n'est pas conséquent avec ce qu'on a compris. Dieu m'a appris. Puis voilà, lui qui savait qu'il pouvait manger avec des païens convertis, eh bien, il l'a fait. Mais quand il est venu, certains juifs, qui était au Seigneur, mais qui judaïsait, ben, par crainte des circoncis, il nous dit que, alors il a changé d'attitude. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même Barnabas, qui était le compagnon de Paul, fut entraîné par leur hypocrisie. Vous savez, un exemple, Pierre était en train, il mangeait avec les païens, puis tout à coup, voilà des gens considérés de Jérusalem qui viennent, et il a peur. C'est quand même un petit peu le tempérament de Pierre. C'est vrai? Vous vous souvenez ce qu'il a fait? Il avait dit à Jésus, quand tous te renieraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Puis qu'est-ce qu'il a eu? Il a renié parce qu'à cause de qui? Une petite servante. Une petite servante qui lui dit, mais toi aussi tu étais de ces gens-là. Et voilà le naturel qui revient au galop. Il dit, je ne connais pas cet homme. Et voilà de nouveau cette tendance quand même naturelle chez Pierre. Il a peur du qu'en dira-t-on des autres, de sa réputation. Et puis évidemment, un homme comme lui, il entraîne d'autres dans cette hypocrisie. Alors, que va faire Paul? C'est là qu'il est courageux. Il n'a pas dit, Pierre, il est infaillible. Il ne peut jamais se tromper. Non. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Tu voudrais maintenant qu'on oblige les païens à être circoncis? C'est pas possible. Puis alors, donc il le reprend. Et est-ce que vous croyez que Pierre y en a voulu? Non, vous savez, quand quelqu'un nous dit une fois une vérité, il faut être bien reconnaissant, même si ça nous a blessés peut-être. Parce que plus tard, Pierre dit, vous savez, vous feriez bien de lire les épîtres de Paul, c'est un bien-aimé frère. Mais il dit des fois des choses difficiles à comprendre, et les gens mal affermis tordent ce qu'il dit. Mais moi je vous invite à lire ce que notre bien-aimé frère Paul a écrit. Donc Pierre n'en a pas voulu à Paul. Comprenez-vous? Parce qu'on est tous faillibles. On peut tous avoir des manquements. Alors, il dit, verset 15, nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Parce que même s'ils étaient juifs de naissance, est-ce qu'ils étaient pécheurs? Oui. Et est-ce que c'était par la loi qu'ils avaient été justifiés? Non, par la foi en Jésus-Christ. Alors, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Comment est-ce que vous pouvez être justifiés? En faisant des œuvres? Non, par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Est-ce que vous en êtes sûr? Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. On a vu que Caïn n'a pas été justifié en apportant le fruit de son travail. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Est-ce que Christ servirait le péché? Être ministre du péché, c'est servir? Bien non, loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin que je vive pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, puisque nous sommes tous des pécheurs, la loi, quand on est devant la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous condamne. La loi nous condamne tous, que nous soyons juifs ou que nous soyons païens. Si je suis juif, je suis quand même un pécheur, c'est pas le nom du juif qui fait de moi un pécheur, un juste. Quelle que soit ma religion de naissance, je suis un pécheur. Et j'ai besoin de salut. Vous avez compris. Alors, devant la loi, nous sommes tous condamné. Mais qui est-ce qui est mort pour nous? Qui est-ce qui a été condamné? C'est Jésus-Christ. Les Juifs ont livré Jésus à Pilate et Pilate, qui devait le préserver, l'a fait crucifier. Donc, Juifs et Grecs, nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais Jésus, donc, est mort. Qu'est-ce qui aurait dû mourir? C'est nous. Mais puisque c'est Jésus qui est mort, la loi a été satisfaite. Une fois que quelqu'un, quand je pense à la France, on guillotinait les gens. Une fois qu'un homme est guillotiné, est-ce que la loi a encore quelque chose à dire? Non, la loi est satisfaite. C'est fini. Il a payé, il est exécuté. Alors, maintenant vous aussi, puisque quelqu'un est mort à votre place, la loi qui vous condamnait, elle est satisfaite. Vous n'avez plus rien à faire avec la loi. Donc, considérez-vous comme mort à la loi. Vous avez à vous considérer comme mort à la loi. Et ça va vous devenir beaucoup plus clair. Alors, Paul dit ensuite, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Puisque Christ, quand il est mort, est-ce qu'il est mort pour des péchés que lui avait commis? Il était sans péché, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc, il était sans péché. Donc, s'il est mort, c'est à cause de quoi qu'il est mort? Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait en lui? Le salaire du péché, c'est la mort. S'il est mort, c'est qu'il y avait des péchés sur lui. Il n'y avait pas de péché en lui, mais il les avait pris. Il avait pris les nôtres sur lui. Alors, non seulement c'est lui qui a été crucifié, mais nous avons été